Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Mener un entretien avec Salvador Dali, sans doute l'exercice n'était-il pas facile, même si l'on pouvait avoir l'assurance de l'entendre dire deux ou trois choses pittoresques dans tous les sens de ce mot. Le spectacle était d'une certaine façon assuré. Encore fallait-il savoir où l'on souhaitait mener Dali et avoir une idée de la direction dans laquelle lui-même partait. À cet exercice périlleux de l'entretien avec Dali, Robert Mallet se risquait en 1956, le temps de trois émissions dont nous allons entendre la première. Au programme de ce premier volet, une rapide exposition de la paranoïa critique, le procédé de création cher à Dali et l'évocation des nombreuses différences et divergences qui le distinguaient de Picasso. Entretien avec Salvador Dali, première partie, diffusée le 28 décembre 1956 sur la chaîne nationale.
La radiodiffusion Télévision Française vous prie d'écouter Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, méthode paranoïa critique, recherche d'un angélisme et propos sur Picasso.
Salvador Dali, je voudrais vous poser une question, en espérant que cette question ne vous heurtera pas, ou que si elle vous heurte, justement, elle provoque en vous cette bonne percussion de la riposte. Je voudrais savoir comment se retrouver soi-même dans l'image publicitaire qu'on veut donner de soi. Comment ne risque-t-on pas de devenir ce qu'on exhibe? Ou bien exhibe-t-on ce qui est le plus profond de soi, le plus intime? Ou bien finalement, ne risque-t-on pas de devenir ce que l'on exhibe? Est-ce un instinct qui vous fait être ce que vous êtes apparemment? Ou est-ce le résultat d'une attitude? Vous avez dit vous-même, vous avez consenti à le dire avec bonne grâce, je suis un simulateur. Mais si l'on est un simulateur, il y a forcément une dissimulation dans cette simulation. Alors je voudrais savoir ce que vous simulez pour savoir aussi ce que vous dissimulez.
Je crois que c'est... Cette chose était presque répondue catégoriquement dans ma vie secrète, où j'explique que j'ai passé toute ma jeunesse et presque toute mon adolescence à jouer à être un génie, sans y croire. Et c'est vraiment en jouant à être un génie que je l'ai devenu.
Oui, vous dites, j'ai fini par croire que j'avais du génie, tellement j'ai dit que je l'avais, vous le dites là.
Oui, oui, mais c'est vrai. Je ne croyais pas, je jouais, je simulais, je me jetais... des escaliers uniquement pour provoquer l'étonnement de mes confrères de collège.
Quand vous étiez chez les Maristes.
Chez les Maristes.
À Figueras.
Et après, toutes ces chutes ont devenu vraiment des chutes géniales. Et j'étais moi-même complètement convaincu. Maintenant, je suis convaincu que je suis un génie. Mais c'est en jouant à devenir un génie que je l'ai devenu.
Oui, mais là, nous allons envisager une autre conception que celle du génie que vous pouvez avoir de vous-même. Votre comportement ordinaire dans la vie. Vous dites « j'attire les anomalies » et vous citez des cas justement dans votre vie secrète, qui n'est plus du tout secrète pour nous, vous nous révélez tout de vous, et vous finissez par nous prouver que chaque fois que vous tentez quelque chose, l'anomalie surgit, que vous le vouliez ou non, elle est là. Il semblerait donc que votre personnage attire cette anomalie.
D'ailleurs, il faut que je touche le voix, parce que ça, ça on peut tout simplement mêler ce phénomène pas tellement à celui de l'hasard objectif, mais à celui de la simple chance. C'est-à-dire que je considère que ma vie est remplie d'une chance hyperesthésique et délirante. Et cette chose que vous dites, que j'attire ces anomalies, se matérialise dans le fait que chaque mois qui passe, je suis de plus en plus entouré par des fous authentiques qui viennent vers moi d'une façon tout à fait fortuite. Il y a des jours à l'hôtel Saint-Régis, à New York, je dois prendre de grandes précautions pour passer à travers le hall, parce qu'il y a parfois 30 fous, mais des fous constitutionnels qui sont en train d'attendre mon passage pour me livrer, ce qui prouve que j'attire.
Oui, mais c'est une chance toute relative, cela.
Ah, pas du tout, parce qu'il n'y a rien de plus stimulant que le...
Que la proximité de la folie.
Que la proximité des événements délirants et des actes délirants.
Oui, pour pouvoir les analyser.
Et pour pouvoir les réduire au rationnel.
Conquête de l'irrationnel par le rationnel.
Ce matériel grouillant, viscéral de l'irrationnel, mon activité première critique consiste à le digérer et à le rendre connaissable et précisément rationnel.
Oui, mais alors, je vais vous poser une autre question. Il est relativement facile de faire la disjonction chez un être entre le phénomène délirant puis le phénomène de création chez cet être. Mais le faire sur soi, faire cette analyse sur soi, faire porter sur soi cet examen, voilà qui est beaucoup plus difficile. Et c'est ce que vous avez essayé de faire. Car vous dites « je suis entouré de fous » et voilà une chance. Mais vous avez dit aussi « je suis un fou de précision » en faisant un jeu de mots d'ailleurs.
Non, ce qui veut dire que je suis un fou avec une arme... très redoutable, c'est que je suis un fou qui possède une méthode de ma propre invention qui est justement la méthode par la critique.
Oui, vous dites je suis fou de précision et comme je le disais aussi, vous faites un jeu de mots, vous êtes fou de précision, vous avez la passion de la précision et en même temps, vous avez une sorte de folie dans votre création, de création continue, organisée, beaucoup mieux qu'organique.
Systématique.
Alors je voudrais que vous développiez cette idée de cette passion, rigueur dans l'acte créateur qui est tout proche de la folie et dans cette méthode, sur ce processus d'analyse que vous avez appelé la méthode paranoïa critique.
Je crois que la vertu de tout ça consiste dans l'agressivité. Les surréalistes ont sombré, à mon point de vue, dans le narcissisme parce qu'ils se sont complus dans leur petite trouvaille irrationnelle.
Oui, ils ont tiré le plaisir de ça. On part toujours du narcissisme et vous-même, vous en êtes parti. Vous y êtes peut-être
dedans. Mais je l'ai sublimé. Je l'ai sublimé parce que maintenant, quand ils se produisent dans une journée une série d'enchaînements de type délirant, je les use d'une façon agressive, justement pour les réduire au rationnel. Le contraire de ce que tous mes anciens amis surréalistes faisaient, qu'ils se complaisaient à broder sur ces événements irrationnels, en tirer du plaisir, et attachés au contraire de vouloir que cet irrationnel reste à peu près intact.
Oui, ils ont systématisé l'irrationnel, tandis que vous avez voulu tirer de l'irrationnel quelque chose qui soit en dehors de l'irrationnel, tandis qu'eux se sont cantonnés à cet irrationnel. C'est pourquoi le surréalisme paraît être un échec, tout au moins sur le plan de l'écriture.
Et en tout cas un échec sur le plan de l'impérialisme. C'est pour ça que même au point de vue politique, à tous les points de vue, ils ne sont pas impérialistes, et moi je le suis. Je veux envahir avec cet irrationnel tous les domaines de précision, qu'on pourrait dire, intra-utérine.
Oui, mais les surréalistes ont eu aussi ce désir d'impérialisme. Ils ont voulu être des conquérants, ils ont voulu envahir le monde du visible par cette préhension de l'invisible, de l'inconscient, du subconscient. Ils ont peut-être abouti à un échec, mais ils ont tout de même été très impérialistes.
Mais on ne peut pas être impérialiste quand on bouge plus ou moins dans l'orbite, très spécifiquement française, proustienne. Tout ça, c'est de l'analyse de leur propre cas et de leur propre psyché. Tandis que moi, c'est dans le domaine objectif que j'ai tourné depuis les premiers numéros du Minotaur. J'ai abandonné presque complètement toutes les recherches d'ordre psychologique et freudienne et je me suis intéressé presque exclusivement à propos des recherches de la physique nucléaire. C'est dans le monde microphysique qui nous pouvait nous offrir des données objectives beaucoup plus violentes
plus
dans le sens
oui.
de la conquête de l'irrationnel que dans la continuation plus ou moins psychoanalytique.
Vous pensez donc que les surréalistes, eux, n'ont pu que se borner au subjectif, n'ont jamais été plus loin, ont abouti à une impasse, tandis que vous êtes passé de ce subjectif, de l'acte délirant intérieur,
à l'acte délirant objectif,
oui, maxima, la projection vers
qui est le monde physique de la physique nucléaire des dernières années.
Oui. Alors, je voudrais maintenant vous faire préciser un autre point.
Une idée que je crois que c'est nécessaire. Je crois que ce que montre d'une façon plus claire ce que je veux dire, C'est Freud qui me l'a tout à fait suggéré quand il m'a dit, je lui ai apporté à voir un tableau surréaliste typique, il m'a dit, ça ne m'intéresse pas dans un tableau surréaliste trouver ce qu'il y a d'inconscient ou de subconscient, ce qui m'intéresse c'est d'analyser ce qu'il y a de conscient. Parce que dans un tableau surréaliste, tout ce qui est subconscient ou inconscient, on le voit tout de suite.
Oui.
C'est le contenu manifeste.
Mais car la main est toujours consciente.
Et les intentions aussi. C'est-à-dire que nous savons très bien ce que c'est que le complexe d'Œdipe. Si Ingres, dans un tableau, Freud peut découvrir qu'il y a le complexe d'Œdipe, c'est très important parce que M. Ingres ne connaissait pas la psychanalyse et ne connaissait pas Œdipe comme nous le connaissons aujourd'hui. Mais si Dali aujourd'hui fait le complexe d'Œdipe, un psychologue découvre que dans ce tableau il y a le complexe d'Œdipe, ça n'a plus aucun sens. Donc pour lui, ce qui lui intéressait dans mes tableaux, ce n'était pas le freudisme qu'il y avait, mais le côté conscient que moi-même je ne connaissais pas à ce moment-ci.
Oui, est-ce que vous ne pensez pas qu'un des échecs du surréalisme pictural, c'est justement cette impossibilité d'exprimer par la main qui, elle, est consciente, comme je le disais tout à l'heure, cette démarche de l'inconscient, ce qui est possible dans l'écriture par la main, quand elle ne fait que retracer ce que l'esprit a conçu, n'est plus possible dans le domaine proprement pictural. Et finalement, on a abouti à ceci, c'est que les tableaux surréalistes n'ont été surréalistes que dans les thèmes, mais n'ont jamais été dans la plastique.
Ça, c'est exact.
Tandis que vous restez un surréaliste d'esprit profondément et que vous n'avez jamais pu, justement grâce à ce surréalisme pictural, donner libre cours à cet inconscient plastique qui est, je crois, à peu près impossible à traduire.
Qui doit se traduire uniquement par des faits presque brutaux et violents dans le domaine plastique, à cette discontinuité de la matière et à ce fait que, au contraire de ce que dans la cosmogonie surréaliste, on croyait toujours que le microcosmos était la répétition du macrocosmos. Ce n'est pas du tout ça. Dans le microcosmos, tout se passe absolument autrement, et en tout cas d'une façon dans laquelle tout déterminisme fait échec.
Oui. Et alors, je voudrais revenir maintenant, sur un plan peut-être moins élevé, à cette perception du délire créateur qui se prolonge par la lucidité critique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce délire, puis cette façon de le canaliser, cette lucidité, est le propre de tous les artistes? Est-ce que finalement, inconsciemment, est-ce que tous les artistes de génie, je ne parle pas des artistes de talent, je parle des artistes de génie, est-ce qu'ils ne font pas tous ce travail?
C'est le processus même de la création artistique. On parle de l'informe et après on dépasse la figuration et le formel et on arrive à l'angélique.
Oui, tout à l'heure,
le grand problème, c'est passer de l'informe à l'ange.
Donc, de l'informe au formulé qui n'est pas forcément le conforme.
D'ailleurs, si on ferme les yeux avant de s'endormir et on suit l'évolution de ce qu'on appelle dans le monde scientifique les images hypnagogiques du pré-sommeil,
oui. Il
y a ce processus. On commence pour voir des points, des petits corpuscules, parce que l'obscurité totale n'existe jamais. Et ces espèces de corpuscules s'organisent dans des structures informes. Ces structures informes deviennent des formes précises. Et tout d'un coup, on voit un petit curé avec un chapeau qui va très vite sur une passerelle. Donc nous avons déjà une image terriblement concrète. Mais cette image, nous avons arrivé à Maisonnier. Mais de ça, arrivé aux anges, alors là, c'est là où nous en sommes maintenant.
Mais est-ce que cet angélisme, d'après vous, Picasso l'aurait atteint?
Lui est plutôt, comme j'ai toujours dit, c'est un ange déchu, c'est un ange mauvais. Il est angélique, mais il est un ange négatif.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des expressions dans son œuvre qui soient, justement, la traduction de cet angélisme, et d'autres qui soient le contraire, qui soient une sorte de satanisme?
Je crois que toujours, comme dans Leonardo, c'est plutôt satanique, c'est démoniaque.
Oui.
C'est comme Leonardo, même quand il peint des anges, c'est des anges terriblement troublants et ambigus.
Dans votre pamphlet « Les cocus du vieillard moderne », vous nous montrez une nudité de Picasso et vous nous la montrez comme le comble de l'horreur dans le difforme. Et justement,
et dans la bestialité.
Et dans la bestialité, mais alors, oui, la bestialité s'oppose à l'angélisme ici. Mais moi, je poserais le mot difforme au mot forme. Et justement, vous dites que dans ce délire délirant, il faut passer de ce qui est informulé, mais de ce qui existe, à ce qui deviendra formel, à cet angélisme.
Alors, justement, il y a premièrement l'informe, après il y a le formel, et après on arrive au maisonnier, c'est-à-dire à cette espèce de naturalisme du formel, oui, qui est une espèce d'hyperesthésie aussi, et de là, on peut arriver à l'angélique.
Mais alors, comment bifurque-t-on, comment déraille-t-on plutôt vers le difforme? À partir de quel moment?
Je crois que le difforme est une espèce de prédisposition congénitale à l'ordre vraiment psychologique.
Oui, mais c'est comment expliquez-vous ce phénomène dans le cas de Picasso? Car il est parti, comme vous, d'une peinture très figurative.
Oui, mais c'est toujours, il y avait un élément psychologique qui prédominait, parce que quand on parle de Picasso figuratif, on se trompe parce que c'est des images qui ne sont pas tellement figuratives, c'est des images surtout psychique et sentimental. Tous ces Arlequins, toute cette époque bleue, il n'y a pas un souci de rendre des images objectivement valables. Tout ça, c'est du maniérisme et c'est surtout très déformé par tous les grands phénomènes d'ordre intérieur. Quand moi j'ai fait du naturalisme, c'est vraiment comme des chromos, il n'y a aucun sentimentalisme, c'est tout à fait précis,
oui,
objectif comme le catalogue.
Est-ce que vous ne pensez pas que la grande différence entre vous et Picasso, c'est que vous êtes beaucoup plus poète que Picasso? Picasso n'est pas un surréaliste. Il a été tenté par le cubisme, il n'a jamais pu faire
non,
le surréalisme.
Moi, je crois que la plus grande différence, c'est que moi, j'ai un type d'intelligence, je suis plus intelligent et j'ai un type d'intelligence archangélique, même pas angélique, archangélique. Et lui, il est instinctif.
Et il est beaucoup moins cérébral que vous.
C'est ça, pas intelligent dans le même domaine que moi. Et il a sentimentalement des liaisons très profondes avec tout ce qui est négatif et de type angélique peut-être, mais démoniaque en tout cas.
Il paraît beaucoup plus obsédé que vous par des désirs d'expression purement plastique, en dehors de toute spiritualité.
Pour lui, c'est un mécanisme de défense, parce qu'on voit dans la période bleue, c'est un être très sentimental, presque larmoyant, apitoyé par les tziganes pauvres ou pour les forains. Jamais ça m'est arrivé, des choses comme ça.
Oui, mais on peut être sentimental et ne pas être tellement poète.
Et alors lui, quand vous dites qu'il est très préoccupé par la plastique, il le fait parce qu'il sent cette sentimentalité, c'est une façon de s'en défendre. De même qu'il veut se défendre de la beauté, et de même, comme je dis dans mon livre, qu'une fois me montrant un papier collé, n'étant pas très convaincu de la transcendance de ce papier collé, il m'a dit, écoute, en tout cas, ce n'est pas du bougre. Ce qui prouve qu'il avait une terreur de pouvoir faire des choses qui ressemblaient à bougre.
Il ne voulait pas être considéré comme un pompier.
C'est ça, donc il avait un effort tout à fait conscient de vouloir faire quoi que ce soit, mais que ça ne soit pas être comme maisonnier et bougre. Et à ce moment-ci, moi, je faisais le contraire. Je disais, je vais faire des tableaux qui soient, si je pouvais faire comme Bouguereau, comme maisonnier, ça serait merveilleux, que ce soit absolument comme une chromolithographie.
Comme une photographie.
Exactement, et quand je trouvais un monsieur, une fois j'ai trouvé un monsieur avec une légende d'honneur et de guêtres, et qui habitait dans un appartement colfotré, et que ce monsieur a mis à côté de maisonnier un Dali, c'était un des jours que j'étais le plus ravi de ma vie, parce que j'ai dit, finalement, il y a quelqu'un qui connaît vraiment mes vraies intentions. Je préférais beaucoup plus être passé pour un pompier à cette époque, et je considérais qu'à ce moment-ci, c'était vraiment la chose subversive, que non pour passer pour un monsieur avant-gardiste.
Oui. Vous venez de prononcer le mot d'avant-garde. Est-ce que vous ne croyez pas que chez Picasso, il y a ce désir d'être continuellement à l'avant-garde? Et alors, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous avez ce désir?
Je ne crois pas, parce qu'en ce moment, il lui serait très facile de continuer, par exemple, à faire des choses dans le domaine des peintres abstraits. Au lieu de ça, il retourne plutôt à des dessins qui évoquent le sentimentalisme de sa jeunesse,
oui,
ce qui prouve qu'il y a quelque chose de qu'il s'en fout. Au fond, Picasso, actuellement, il ça lui est absolument égal ce qu'on peut penser de ce qu'il fait.
Et vous aussi?
Comment?
Vous aussi, ça vous est complètement égal?
Non, moi je tiens à rester un être subversif.
Vous tenez à rester un être subversif. Alors, ce qu'il y a de curieux dans votre cas, c'est que l'anomalie que vous cherchez...
Mais pas n'importe, pour n'importe quel moyen.
Oui, je comprends bien.
C'est pas parce que, à dire, voilà, pas faire de bougre, pas faire... C'est pas comme Picasso, je vais être un être subversif parce que je considère que c'est la condition essentielle
De l'expression de votre personnalité.
De ma vie.
De votre anarchisme congénital.
De mon caractère.
Oui, mais ce qu'il y a de curieux, je veux reprendre...
Le jour que je me considère un être qui n'est pas subversif, je me considère amoindri vitalement et rempli de poussière.
Oui,
et
prêt. Alors, si vous me permettez de vous comparer encore à Picasso, je ne sais pas si ça vous fait très plaisir, mais c'est souvent, et c'est même presque toujours en fonction d'un autre qu'on se situe. J'ai l'impression que Picasso, lui, dans son esprit, ne conçoit pas l'anomalie et que c'est dans sa main qu'il la crée, cette anomalie. Tandis que vous, il semble que votre esprit prenne plaisir à se repaître de anomalie et que finalement votre main, finalement, elle aboutisse à une peinture extrêmement classique. Donc, il y a anomalie chez l'un comme chez l'autre, mais chez vous, elle est beaucoup plus dans l'esprit qu'elle n'est maintenant dans la peinture. Tandis que chez Picasso, c'est l'inverse qui se produit. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis.
C'est exact.
Vous venez d'entendre Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, méthode paranoïa critique, recherche d'un angélisme et propos sur Picasso.
C'était la première des trois parties des entretiens avec Salvador Dali, diffusée le 28 décembre 1956 sur la chaîne nationale. À suivre.